Mais qu'est-ce que c'est ça?
Hé, hey, mais qu'est-ce? Je comprends rien.
Oh, ça sent donc bien drôle. Dossier bizarre.
Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission Dossier bizarre de cette semaine, 86e épisode. Tristan, honnêtement, pensais-tu te rendre là?
Eh non, pas du tout. Mais tu sais, sérieusement, Jason, j'en reviens pas parce qu'on a tellement de propositions, de sujets par les fans que c'est des dossiers bizarres, en voulez-vous, en voilà, c'est incroyable. On a une banque de sujets, là, peut-être qu'on a quoi, peut-être une centaine de propositions.
Ah oui, oui, on en a facilement une centaine de propositions et il en rentre plusieurs à chaque semaine. Là. Des fois, des gens qui vont en faire une, puis là, deux minutes après, vont renvoyer un message. Ah oui, oui, mais hey, j'ai pensé à d'autres choses. Ah hey, oui, bien sûr aussi. On en a. C'est pas toujours possible de toutes les faire, parce que des fois, des sujets sont vraiment pas assez étoffés pour faire plus qu'un 10-15 minutes. Mais éventuellement, on pourra peut-être recouper certains sujets, faire un épisode avec trois ou quatre sujets qui tournent autour du même thème. Mais écoutez, c'est incroyable la quantité de propositions et de suggestions qu'on a. Et continuer comme ça, on l'apprécie. Ça nous enlève d'ouvrage un petit peu. Vous trouvez les sujets à notre place.
Exactement. Là, Jason, c'est fou. C'est la première fois, je crois, dans tous nos épisodes, que le dossier d'aujourd'hui, ça part d'un fait vécu que j'ai vécu à cette île.
Ben oui, c'est assez spécial ça, parce qu'il est arrivé un événement, tu as dû le couvrir dans ton travail journalistique et le sujet était assez étrange pour que tu t'y intéresses, mais avec tes lunettes de dossier bizarre, ça l'a donné un sujet, c'est quand même, c'est toute une aventure ça là.
Oui, 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 exactement. Donc, je pourrais tout de suite commencer, Jason, là, par décrire c'est quoi le sujet.
Oui, oui, vas-y.
On va parler du oum.
Ben oui, le oum. Moi, quand tu me dis ça, je dis OK. C'est comme j'avais absolument aucune idée de quoi tu parlais et encore moins que c'était quelque chose qui s'était passé là, dans notre petit coin du monde.
Ben oui, ben je vais vous raconter l'anecdote à cette île, comment ça s'est passé. Pour vraiment d'où ça part tout ça, l'idée de ce sujet-là aujourd'hui. On est le 17 mars 2022, Jason. Et comme toujours, j'arrive le matin au boulot pour faire la couverture de l'actualité sur la Côte-Nord, au Québec, à Sept-Îles. Et puis là, on reçoit un message privé d'une personne qui nous dit « Hey, est-ce que vous avez entendu un bruit bizarre, un gros grondement, une vibration assez puissante qui a duré à peu près 10 minutes et ça m'a réveillé. Je me demandais c'était quoi. Est-ce que c'était des travaux? Est-ce que vous savez c'est quoi? Est-ce que la ville a peut-être une indication? » Une explication sur ce sujet-là. Hmm. Alors, on fait un petit article rapide pour dire, il y a une citoyenne qui a entendu ça. Est-ce que vous avez entendu ce bruit-là aussi?
Là, ben oui, c'est panoplie. Ça, confirmé. Est-ce que quelqu'un d'autre? Ou c'est peut-être juste dans son immeuble, dans sa maison que c'est arrivé. Et puis, on va aller voir s'il y a d'autres témoignages qui vont concorder avec ce que vous avez eu comme message. Parce que vous en aviez eu juste un message au départ.
Oui, c'est ça. Okay. On voulait savoir, est-ce que d'autres personnes l'ont entendu? Finalement, on a au moins une vingtaine de commentaires, Jason, de plein de monde qui nous disent « Ah, moi, j'étais dans l'est de la ville, je l'ai entendu, ça m'a réveillé. » Puis il y a plein des familles, des gens qui nous écrivent, qui nous disent « Oui, oui, à cette heure-là, moi aussi, ça m'a réveillé. C'était une vibration, c'était des basses fréquences. » C'est vraiment là, comme un un bruit de moteur au diesel.
Oui, 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 un moteur qui roule au ralenti, là, puis qui est un moteur puissant là, qui fait qu'on sent l'air vibrer autour de nous. Là.
Exactement. Puis il y a aussi la directrice de la station de radio, Elisabeth, qui nous disait « Ouais, moi, mes animaux, même, ils étaient agités durant cette nuit-là.
Ben, » voyons donc!
puis il y a d'autres personnes qui nous ont écrit ça, que les animaux étaient agités. C'était vraiment, vraiment spécial. Fait que là, écoute, j'ai fait mon enquête. Je me suis dit « pour une fois, je peux faire une enquête d'aussi bizarre dans le cadre de mon travail.
Hey. »
Donc, j'ai appelé le directeur général de la ville de Sept-Îles.
OK.
Monsieur Patrick Gouliam. Et puis, Monsieur Gouliam, il a pris ça au sérieux parce que voyant la quantité de commentaires qu'on avait puis de réactions.
Puis c'était pas centré dans un petit secteur, là. C'était plusieurs personnes à différents endroits dans la ville.
C'est ça, exactement. Donc, vraiment, là, des centaines, peut-être même des milliers de personnes l'ont entendu. T'sais, rendu là, on pourrait pas dire le chiffre exact, mais il y a une bonne partie de la population qui a été réveillée cette nuit-là à Sept-Îles au même moment pour la même raison. une vibration, des basses fréquences, un grondement qui a duré à peu près 10 minutes.
OK.
Et là, Patrick Gouliam, le directeur général, il a vraiment fait une enquête approfondie. Il a appelé tout le monde. Il a appelé le service de police. La police a dit non, nous autres, on n'a rien à signaler qui pourrait expliquer ça. Il a appelé la compagnie minière IOC.
Okay.
Pour savoir s'il n'y avait pas eu des travaux de mines.
Oui,
peut-être,
oui.
Peut-être ils ont-tu creusé, ils ont-tu
des explosifs, est-ce qu'on a fait sauter quelque chose? On est dans un secteur minier et ça arrive à l'occasion qu'il y a des bruits ou qu'il y a des choses qui se passent en lien avec les mines là, aux alentours. Habituellement, la population est avisée, par exemple, si ça risque de créer un désagrément, mais bon, des fois, il y a des imprévus qui arrivent aussi.
C'est ça, exact. Puis il y a le train, tu sais, est-ce que le train aurait pu effectuer des manœuvres, mais IOC explique qu'aucun train ne pourrait expliquer la nature du phénomène durant cette nuit-là. Ni les équipes des travaux publics de la ville, ni la SQ possèdent des informations qui pourraient résoudre le mystère. Alors, Patrick Gouliam, il a même appelé l'aéroport de cette île. Il a dit, est-ce que vous aviez des infos sur un avion? Peut-être un Boeing?
Pourquoi pas? Peut-être un avion qui a dû baisser son altitude et qui aurait provoqué cette espèce d'onde de son, de vibration.
Exactement, mais finalement, les gens à l'aéroport ont dit non, écoutez, on n'a aucun avion qui passait au-dessus de la ville à ce moment-là précis de la nuit.
Ben voyons donc.
des avions à cette île, il y en a, mais pas tant que ça non plus.
Non.
On l'aurait su, donc pas d'avion. Il a appelé Séisme Canada, M. Gouliam.
Oui, c'est ça. Je commençais à m'impatienter. Je dis, est-ce qu'on a enregistrer quelque chose quelque part. Il y a des machines ultra sensibles à plusieurs endroits, dont les mines d'ailleurs, qui veulent enregistrer quand justement il y a du dynamitage, ce genre de choses-là, veulent enregistrer les ondes de choc dans les sols, tout ça. Est-ce que les sismologues ont remarqué quelque chose?
Aucun phénomène de nature sismologique durant la nuit sur Séisme Canada. Donc rien ne peut expliquer cette vibration. Pas d'avion, pas de chantier, pas de travaux, pas de train, pas de rien, pas de tremblement de terre. Donc, c'est vraiment, vraiment bizarre. Puis là, j'ai fait mes petites recherches, puis c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait un phénomène qu'on appelle le hum. Donc, c'est un bourdonnement inexpliqué entendu dans différents pays semblables au moteur d'un camion tournant au ralenti, d'un orage lointain ou d'un avion volant à basse altitude. Mais il faut vraiment noter que ce sont des basses fréquences.
Oui.
Donc, c'est vraiment, c'est à ça que ça ressemble. On dit aussi la définition connue sur le web qu'on va décrire. Il y a aussi la description. La composante essentielle qui définit le phénomène du bourdonnement ou vrombissement est ce qui est perçu comme un son persistant de basse fréquence qui ressemble à un bruit vrombissant de moteur diesel tournant au ralenti et à une certaine distance ou à un son similaire et pour lequel aucune cause ne peut être identifiée après que l'on a examiné et éliminé toutes les possibilités ordinaires de bruit de cette nature.
C'est un peu le travail que tu as fait, en fait, avec le directeur général de la ville. Vous avez été aux endroits les plus logiques d'où pourrait provenir la fameuse vibration, le fameux bourdonnement. Et là, vous les avez éliminés, vous avez vraiment une liste, puis là, vous faisiez un petit crochet à côté pour dire « Non, c'est pas ça. » Puis à un moment donné, il n'en restait plus.
Non, c'est ça, exactement. Donc, on a bel et bien vécu le phénomène du hum à cette île. C'est quand même pas rien, parce que des hums connus comme ça, il y en a quelques-uns, on va y revenir, mais avant, je veux juste parler de quelques faits encore sur la description du phénomène du hum.
D'accord.
Quelques faits intéressants. Habituellement, Jason, on l'entend plus à l'intérieur qu'à l'extérieur.
OK.
Donc, ça, c'est vraiment spécial. C'est souvent quand on est dans le bâtiment, dans notre maison, dans notre logement, qu'on l'entend fort. Si on sort à l'extérieur, on l'entend beaucoup moins.
OK.
Donc, c'est comme si les murs participaient à créer une genre de résonance.
C'est ça, une espèce de caisse de résonance, un peu comme une guitare, une guitare électrique. C'est un corps plein. Il n'y a pas de résonance vraiment, il faut la brancher. Une guitare sèche, il y a une caisse de résonance, c'est la raison pour laquelle on entend bien les notes. C'est un peu le même principe finalement.
Exactement. Et la nuit, on dit aussi que c'est souvent la nuit, lorsque la ville est tranquille, lorsqu'il n'y a plus d'activité humaine.
Si il y en a dans le jour, il y a déjà trop de bruit, on le manquerait.
Mm-hmm. Oui, c'est ça. Puis là, la nuit, ce son-là, ça arrive souvent la nuit. Donc, on remarque que le hum arrive souvent la nuit. Et on pourrait se dire, ben là, c'est un acouphène, puis c'est tout. C'est pas un acouphène. Il y a l'étude de 2004 du géophysicien David Deming de l'Université de l'Oklahoma qui exclut les acouphènes et indique que ce bruit peut se manifester par des vibrations ressenties dans le corps et est souvent accompagné par une suite de symptômes physiques qui peut inclure des maux de tête, des nausées, des douleurs dans les oreilles.
Ben voyons donc.
Puis en plus, ben, il dit que quand le hum est entendu, ben, c'est souvent par une grande partie de la localité.
Ouais, là, ça exclut pas mal les acouphènes, à moins qu'on ait une épidémie d'acouphènes concentrée dans une période de 10-15 minutes. C'est pas logique là, comme explication.
Exactement. Donc ça, on peut tout de suite dire que c'est vraiment le hum, ça provient, il y a une source à quelque part qui produit ce son-là, ça vient pas de notre oreille.
Hein?
On va parler des... maintenant, ça part d'où, ça?
Écoute, je vais faire juste une petite parenthèse parce que ce que tu me décris là, moi j'habite tout près de la mine, ben, en fait là, des bâtiments administratifs de la mine du côté de Havre-Saint-Pierre. Il y a un train là, qui fait un trajet de quand même une bonne distance où le site de la mine lui-même est. On a un voisin qui est un monsieur âgé, je le salue d'ailleurs s'il nous écoute. Lui là... Il est en train de faire des études avec la mine parce que ce que tu m'as décrit là et aller jusqu'aux symptômes physiques, il le vit, mais régulièrement.
Ah ouais.
Et lui, il a appelé à la mine, il a pris entente avec eux. On est allé mettre des appareils de captation chez lui. Écoute, là, c'est mon voisin. Là, je veux dire, quand je fais pipi, là, je peux lui dire salut dans sa cuisine. Là. On est quand même pas loin un de l'autre. Là, les maisons sont collées. Moi, je remarque rien. Du moins, je n'ai pas l'impression de remarquer quoi que ce soit. Mais lui se plaint régulièrement de exactement ce que tu dis là. Il y a de la difficulté à l'expliquer. Il y a de la difficulté à le verbaliser. Mais c'est exactement ça. Il dit des fois, la nuit, là, je me réveille, là, j'ai l'impression que ma maison tremble, mais elle tremble pas vraiment. J'ai l'impression d'entendre une espèce de grondement. Puis lui, il est convaincu que ça vient de la mine. Il est convaincu que ça vient de la mine. La mine, justement, là, par courtoisie, on fait des études avec lui, on collabore avec lui pour essayer de trouver qu'est-ce que ça peut bien être, ça. Et on trouve rien. Écoute, je ne pensais pas qu'on allait tomber sur ce sujet-là aujourd'hui et que ça allait être aussi près de ce que ce monsieur-là me décrivait dans ses mots, puis avec l'habileté qu'il avait d'expliquer le phénomène. C'est pas facile, je sens même qu'il vit de la frustration par rapport à ça, parce que quand il essaie de l'expliquer, c'est tellement bizarre qu'on dirait qu'il trouve pas les bons mots. Il y a de la difficulté à qualifier exactement le bruit, la vibration, la sensation et ce que ça lui fait à lui aussi. Il dit qu'il se sent pas bien. Quand ça arrive, souvent le lendemain, il va être marabout, il va être amorphe, il va avoir mal à la tête, il va être moins énergique. Il y a des symptômes comme ça. Puis écoute, ça rejoint exactement ce que tu décris, puis je le savais même pas.
Ah, ben, c'est donc ben fou, ça. On voit que c'est un phénomène. Ben, c'est ça que, en lisant Jason, je me suis rendu compte que c'était énorme, cette affaire-là.
Ben oui!
De plus en plus. Puis, il y a aussi, je profite de ce que tu viens de dire là pour tout de suite parler de ce point-là. C'est qu'on dit que ben, la sensibilité aux basses fréquences, ça dépend de chaque personne.
Hein. Ah!
Donc, des fois, là, il y a même du monde qui disait que pendant le phénomène du hum, il y a 2-3 personnes dans la même maison, puis il y en a 2 qui vont l'entendre, puis il y a une personne qui a moins de sensibilité aux basses fréquences qui ne l'entendra pas.
OK!
Donc, c'est pour ça que c'est pas tout le monde à cette île qui l'a entendu. Il y a plein de monde à qui je parlais qui ont dit « j'ai pas entendu ça, moi ». Ben non, j'ai pas entendu ça. J'étais même réveillé à cette heure-là, j'ai rien entendu. Alors que pour d'autres, ça peut être horrible, ça peut être vraiment agressant. Il y a du monde qui... Ça peut les réveiller, mais on parle aussi des fois des maux de ventre, des maux de tête. Puis ça peut vraiment, dépendamment de la sensibilité qu'on a aux basses fréquences.
Écoute, il y a des fréquences qui ne sont pas entendues par tout le monde. Et c'est même une question d'âge et d'usure des oreilles puis de tout le système d'audition. Il y a des fréquences que ma fille de 9 ans, à un moment donné, elle faisait jouer une vidéo. Elle disait « Papa, t'entends ça? Oui, je l'entends. Papa, t'entends ça? Oui, je l'entends. Papa, t'entends ça? » Non, ben là, parlez ton vidéo, là. Ben oui, mais il joue. C'est fatigant, là, je l'entends, moi. Puis moi, je ne l'entendais pas du tout. Donc, c'est pas une invention, là, qu'il y a certaines fréquences qui sont perçues et d'autres qui ne sont pas perçues. Et c'est une question d'âge aussi. Donc, ma fille entend des fréquences que moi, j'entends pas.
Ben oui, exactement. Donc, c'est un fait, là, on le sait, c'est scientifiquement prouvé. C'est ce qui explique qu'il y a d'autres, comme on vient de le dire, ton voisin, par exemple. Lui, ça aurait une personne qui entend beaucoup ces basses fréquences-là, qui est plus sensible là, à ce niveau-là. Donc, c'est pour ça que c'est très irritant. Puis ça peut même perturber sa vie. T'sais.
Oui, c'est ça, absolument. Parce que là, lui, il le vit. Là, puis, écoute, malheureusement, les gens ne le croient pas tout le temps non plus là, que ça existe, ça. Là, puis on voit là, que c'est un irritant absolument incroyable dans sa vie. Moi-même, là, quand il m'en a parlé, je me suis dit, OK, bon, ben, coudonc, c'est peut-être que sa maison vibre pour une raison X, puis bon, c'est peut-être la maison, le bâtiment. Mais là, maintenant que tu m'en parles, je veux dire, quand il va m'en parler la prochaine fois, je pense que je vais le questionner différemment. Maintenant que je sais un peu là, dans quelle direction amener les questions, je pense que ça pourrait être de quoi d'intéressant à jaser avec lui.
Ben oui, vraiment. Puis peut-être d'en parler. Hein, si quelqu'un maintenant, il y a plein de monde qui vous nous écoute en ce moment, que vous vous dites, ah, je l'ai entendu, c'était ça. Donc, il y a 3 ans, je me rappelle, ça m'a réveillé. Puis tout, ben c'était probablement ce phénomène-là. Ça part quand même. C'est pas quelque chose qu'on retrouve, Jason, dans l'histoire, dans les archives. C'est pas très vieux.
OK. Ça
a commencé là, en 1970, fin des années 70. C'est là que ça a vraiment commencé, qu'on a commencé à répertorier ces phénomènes du Oum. Beaucoup, beaucoup. Quoi qu'il y en avait peut-être avant, on ne le sait pas, mais il n'y a rien dans les archives qui parle de ça assez clairement pour dire que dans les années 1700, 1800, il y en avait. Mais aujourd'hui, avec Internet, ben, les gens se parlent.
Oui, ben c'est ça, ça voyage vite. Puis tu l'as vécu toi-même, là, c'est devenu... c'est pas un méga phénomène viral, mais c'est quand même devenu viral parce que vous avez écrit un tout petit article pour dire... il y a quelqu'un qui nous a dit qu'il avait senti une vibration puis un bruit sourd durant la nuit. Puis soudainement, paf, il y a plein de gens qui ont réagi sans Internet. Probablement que vous auriez dit à la personne qui vous a appelé, « Ah ouais, c'est intéressant ça. OK, bonne journée. » Puis ça se serait arrêté là.
C'est ça, exact. Donc, si mettons, à l'époque médiévale, bien, il y a du monde qui se sont fait réveiller dans le village. Il n'y a peut-être pas de moine qui a écrit rien là-dessus. T'sais. Il n'y a pas juste du monde qui a dit « Hey, ça m'a réveillé, moi aussi. Ah, moi aussi. » C'était le sujet quotidien, mais pas de là à ce qu'on puisse avoir des traces dans les archives de l'histoire. T'sais.
Non, puis je veux dire, le point de vue, l'approche qu'on avait à cette époque-là, devant des phénomènes difficiles à expliquer, était complètement différente de celle qu'on a aujourd'hui aussi. Nous, automatiquement, on va se tourner vers la science, vers les appareils de mesure, l'aéroport, le même cheminement que tu as fait finalement, alors qu'à cette époque-là, c'était peut-être un dieu enfermé dans la terre qui était en colère puis qui avait des brûlements d'estomac ou quelque chose de même. Mais c'est pas la même approche. Fait que c'est sûr que ça ne doit pas être documenté, même si ça se vivait peut-être à l'époque. Là.
Exact. Donc, à partir des années 70, Jason, il y en a plein, là, des phénomènes Zoom répertoriés sur Internet qui ont fait les médias, hein, que les gens qui ont eu des enquêtes et tout. 1979, Bristol Home en Angleterre. Il y a eu Taos Home au Nouveau-Mexique en 90. En 1999, Komo Home en Indiana aux États-Unis. 2006, il y en a eu aussi en Nouvelle-Zélande. 2009 en Australie. 2012, Belgique. 2012 aussi en Alberta au Canada. En 2016, au Maroc. 2016 aussi au Grand Nord canadien. Mais parmi tous ceux-là, là, il y en a 4 événements. Je peux vous les décrire rapidement là, dans l'histoire parce qu'ils ont marqué beaucoup. Il y a le Home de 2012. Ça, c'est en Amérique, du Costa Rica au Canada.
Wow! Et, OK, c'est un petit trajet-là. C'est quand même une bonne superficie.
Puis on dit que là, durant cette année, il y en a eu beaucoup, partout en Amérique, vraiment de l'Amérique du Sud jusqu'au Canada. Et il y a plein de vidéos qui ont été tournées. Il y a une compilation de homes enregistrés durant cette année-là.
Et OK, c'est suffisant pour qu'on puisse l'entendre sur un enregistrement.
Oui, exactement. Okay. Tu vois, il y a quelqu'un qui se promène dans la rue en pleine ville, tu sais, puis il sort dehors avec sa caméra, puis il dit « Hey, John, do you hear that? » Là, tu as les autres personnes qui sont comme « Yeah, this is strange, man. What the hell? » Hey,
tu
vois le monde qui se parle dans la rue, puis il essaie de savoir c'est quoi, puis on l'entend vraiment. Là, c'est genre un gros « hum » dérangeant. Là, tu sais.
OK.
Donc, ça, c'est vraiment janvier 2012. Durant ce mois-là, on en a répertorié beaucoup. Il y a eu les 4 et 5 janvier 2016 en Afrique du Nord. Des sons similaires ont été entendus dans plusieurs villes du Maroc. On parle de Casablanca, Tanger, Oujia, Berkane, El Oussima. De nombreux messages sont apparus sur les réseaux sociaux pour en parler, mais encore là, aucune explication donnée. Puis on voit une similitude entre les vidéos au Maroc en 2016 et la vague de 2012. Donc, dans les vidéos, on voit que c'est pareil. On entend les mêmes vibrations. C'est la nuit dans les vidéos, souvent au Maroc, et c'est la même chose. Les gens sortent dans la rue, il y a des vidéos. « Hey, est-ce que tu entends? Ah, c'est bizarre! » Puis on entend le son, la vibration, qui est très puissante, pour vrai. Là.
Ah, ouais!
Il y a aussi le Oum du Grand Nord canadien en 2016. Donc ça, c'est assez spécial. C'est des chasseurs esquimaux qui ont signalé un son mystérieux semblant provenir du fond de l'océan Arctique.
Oh, OK.
Dans un petit détroit situé à une centaine de kilomètres de Amodiglolik, au Nunavut, donc très, très haut là, dans le nord.
Oui.
Ce houm, à ce qui paraît, selon les gens de la place, a été assez puissant pour faire fuir la faune locale.
Oh! Fait que les animaux ont réagi. Mais tu l'as dit aussi, à cette île, les gens ont remarqué que leurs animaux étaient un peu étranges quand ça s'est passé.
Oui,
donc, les animaux exact. Sont sensibles à ça. Là.
C'est ça, comme on parlait de la sensibilité aux basses fréquences, ouais. Ben, les animaux, c'est encore plus intense pour eux. Là, donc, on peut se douter que, je sais pas, les chiens, peut-être les chats ou la faune en général réagit aussi. Mais là, on en a des preuves. On voit que les animaux sont très réactifs aussi par rapport au phénomène du houm.
OK.
Et là, il y a ce houm-là en 2016. Les résidents pensaient que c'était dû aux activités minières, parce qu'il y a bien des activités minières dans ce
ça.
Coin-là.
On dirait qu'il y a comme un lien commun, pareil. Souvent, on va identifier la source probable ou potentielle, une mine qui est quand même dans le secteur.
Oui, c'est ça, exact. Là, l'enquête, Jason, il y a eu une grosse enquête.
OK.
Il y a eu même le bureau du premier ministre du Nunavut qui a demandé à la Défense nationale, à l'armée, puis là, il y a le ministère de la Défense nationale qui a justement fait une étude des Forces armées canadiennes, qui ont pris toutes les mesures appropriées pour enquêter sur la situation. Finalement, ils ont déclaré qu'il n'y avait aucune explication officielle pour qui avait pu expliquer ce phénomène du houm à l'été 2016.
On documente les témoignages, on documente les enquêtes, mais est-ce que le phénomène lui-même, est-ce que dans tous ces moments-là où ça s'est passé, est-ce que tu as trouvé quelque part où on avait documenté, autrement que par enregistrement, là, le phénomène des vibrations. Est-ce qu'il y a quelque chose d'enregistré quelque part dans un appareil de mesure qui permet de dire, on a au moins une idée, c'est pas la Terre tremble pas, mais on a enregistré je ne sais pas quoi un immeuble, par exemple, là, qui est bien sensible au tremblement de terre, l'immeuble va peut-être détecter qu'il y a une certaine vibration dans ses murs, les senseurs vont le sentir, ou est-ce qu'on a quelque chose de concret comme ça?
Ben, c'est une très bonne question, Jason, puis malheureusement, non. C'est ça qui est vraiment
enrageant. Ben
c'est
oui!
On a comme même que, on le voit dans les vidéos souvent, les gens quand ils filment le houm, ils vont avoir tendance à regarder dans le ciel. Parce qu'ils disent, ah, tu sais, si tu as un avion, si tu veux, ils vont chercher s'il n'y a pas de quoi dans le ciel. Alors qu'on a l'impression que ça vibre, tu sais, ça vibre aussi au sol, la maison vibre. Donc,
mais les sismologues n'enregistrent rien.
Non, c'est ça. Il n'y a pas de rien là, de sismologue.
Parce que je vais te donner une anecdote. Peu avant, je pense que c'est l'année avant que tu viennes travailler avec moi ici. On a eu un été où, ici, il n'y a pas beaucoup d'orages. Des orages électriques là, avec des éclairs, du tonnerre, il n'y en a pas beaucoup. Mais quand il y en a, on est collé sur la mer et souvent, ça frappe très fort. Et la mine Tio, là, qui est ici, là, Rio Tinto, ont des appareils de sismologie, justement, bon, pour enregistrer un paquet de données en lien avec la mine, quand ils creusent, quand ils dynamitent, quand il y a différentes opérations. Et ça enregistre les coups de tonnerre, les chutes d'éclairs, les coups de tonnerre. Et ils avaient dit, suite à un des orages qu'il y a eu cet été-là, que c'était le nombre d'éclairs ou de vibrations que leur appareil avait enregistré le plus élevé depuis qu'ils les avaient durant un orage. Donc, on avait enregistré le nombre de coups de tonnerre, en fait, grâce aux appareils de sismologie. C'est extrêmement sensible, ces appareils-là. Ça prend pas grand-chose pour que ça enregistre une vibration ou un quelconque bruit très fort qui va faire tellement vibrer l'air que ça va enregistrer dans ces machines-là. Fait que je me dis, si quelque chose est capable de faire vibrer une ville au complet puis que ces appareils-là ne l'enregistrent pas, j'en ai pas d'explication. Honnêtement, ça m'achale beaucoup.
Ben là, tu vois, c'est un peu c'est le fun parce qu'on approche de la deuxième partie que j'ai gardée. C'est le meilleur, c'est la cerise sur le sundae, c'est les hypothèses.
Oui!
Puis, tu sais, moi, c'est ça qui me fait capoter, Jason, c'est les hypothèses. Il y en a trois grandes hypothèses qui sont assez crédibles, okay. Vous allez voir.
Il y en a probablement des plus fly un petit peu aussi.
Ouais, c'est ça, tu sais. Mais c'est fou comment il y en a, là, que vous allez voir. Moi, j'en revenais pas en lisant les hypothèses. J'étais genre, ben voyons donc, c'est incroyable. En terminant sur les événements, là, il y a une base de données cartographique qui s'appelle le projet World Home Map.
Okay.
Et ça a été créé là, il y a peu de temps, là, il y a moins de 5 ans. Bien, on répertorie des milliers de houms, des témoignages de houms sur le globe terrestre. c'est une map, on peut aller
ben oui, ben oui, avec des petits points violets là, un peu partout. C'est très concentré en Amérique du Nord et en Europe, là, ce que je peux voir.
Oui, exact. Puis, malheureusement, c'est vraiment comme juste une récolte de témoignages. Hein. Donc, on ne sait pas s'il y a eu des enquêtes approfondies, comme mettons, j'ai fait à cette île, qui prouve que c'était le phénomène du Hum, mais c'est plein de témoignages de gens qui ont dit « Ah, moi, j'ai entendu un bruit bizarre. » Ah,
oui, mais c'est ça. La côte est de l'Australie, la Nouvelle-Zélande est pratiquement cachée complètement par les points. Les États-Unis, un peu le sud du Canada également, l'Europe pratiquement au complet, un peu la Finlande, le sud de l'Afrique beaucoup, un peu en Amérique du Sud, mais bon, c'est ça, c'est des témoignages. Donc, ça ne veut pas dire qu'on a enregistré tous les phénomènes. Il y a peut-être, au Groenland, il n'y a pas grand monde là, mais il y en a peut-être plus souvent. C'est juste qu'on n'a pas eu de gens qui les ont signalés, tout simplement. C'est pour ça qu'il n'y a pas de points sur le Groenland.
Exactement, c'est ça. Ils ne sont pas tous répertoriés, absolument. Mettons un village de 300 personnes, mettons que ça a réveillé 20 personnes, puis ces 20 personnes-là s'en sont pas parlé. Il y a peut-être eu un phénomène du Hum, puis on ne le saura jamais. C'est vraiment ça. Mais là, ça y est, écoute, les autres, moi je dirais une petite pause, puis après ça, on arrive aux hypothèses.
Ben là, j'ai bien hâte de voir les hypothèses parce que moi, honnêtement, quelque chose qui ne peut pas s'enregistrer comme ça, qui ne peut pas être mesuré, quantifié. Ah, que j'aime pas ça. Ça m'énerve.
On commence à avoir des explications. Il n'y a rien de prouvé, mais il y a trois grandes théories qui ont été étudiées là par des scientifiques et tout qui pourraient expliquer ça. Mais c'est ça qui est étonnant, c'est un domaine qui est inexpliqué encore pour l'instant aujourd'hui en 2022.
Ah, ben, c'est fascinant. Écoute, je me sens comme Charles Tissant. C'est fascinant. On va aller faire une pause, Tristan. On revient avec les hypothèses. Alors, tu dis qu'il y a trois grandes hypothèses qui sont plausibles, puis un paquet aussi qui sont un peu plus farfelues. J'ai bien hâte d'entendre les grandes hypothèses là, qui pourraient expliquer ce fameux phénomène du Hum.
Excellent.
Allons à la pause, on revient tout de suite.
Les dossiers bizarres est une présentation de...
En direct du Centre communautaire de Sainte-Marguerite de Sainte-Marguerite, c'est maintenant l'heure de votre émission Lisons avec Lisons.
Bonjour, puis merci beaucoup. Merci beaucoup tout le monde. Merci beaucoup. Aujourd'hui, on va parler d'un livre que j'ai lu. Je l'ai littéralement dévoré, ce livre. J'ai eu de la misère à le déposer tellement que il y a une fois que j'ai oublié d'aller à la toilette. Ah, c'est incroyablement passionnant. Alors, aujourd'hui, attaquons-nous au manuel du propriétaire d'une Toyota Tercel 1990. Tout d'abord, nous allons y aller avec les différentes sections que nous couvrirons aujourd'hui. Alors, la première étant, si jamais il y a une petite lumière qui se met à clignoter ou bien un son déplaisant qui ressemble à un buzzer, que faire? Que faire si votre voiture refuse de partir? Que faire si le moteur s'arrête soudainement alors que vous conduisez? Etchou! Il y a de la poussière un petit peu. Etchou! Dans le livre. Pierre, j'ai éternué un petit peu, Pierre.
Effectivement, lisons.
Oui, on va pouvoir couper ça au montage, Pierre, pour pas que j'aille l'air trop stupide.
C'est parce qu'on est un petit peu en direct, lisons.
Oh!
Ne manquez pas tous les samedis soirs l'émission Lisons avec Lisons. Nous sommes de retour et on parle aujourd'hui d'un phénomène. Écoute, ça sort vraiment du champ gauche. Hein? On est habitué de faire des lieux mystérieux, des lieux mythiques, des créatures, des extraterrestres. Souvent, on va un peu dans la criminologie aussi. Mais un phénomène naturel comme ça, qui semble anodin à la base, là, ça semble quand même... Ça arrive, j'en ai parlé, là, mon voisin m'en parle. C'est comme, OK, c'est un petit sujet de conversation léger qu'on a. Mais de voir que ça a cette ampleur-là, je te dirais que ça... Je te dis pas que ça me rend mal à l'aise, mais en même temps, je me dis, ben voyons, il y a sûrement quelque chose là, ça se peut pas qu'il y ait autant d'observations, mais qu'on ait aucune donnée concrète non plus, c'est spécial, là.
Oui, vraiment, le fameux phénomène du Hum, on pourrait penser à...
Oui, c'est ça! c'est le peuple souterrain qui médite.
Oui, oui, c'est ça, exact. Alors, là, les théories, sérieusement, Jason, sont malades. Il y en a trois qui sont plus scientifiques, hein, qui expliquent qui pourrait bien expliquer ce phénomène, mais ce sont des théories, il n'y a rien de prouvé encore.
Ben, alors, c'est quelque commencer... chose qu'on peut pas mesurer, comment on le prouve. C'est là ouais. où j'ai un problème, ouais. moi.
on va commencer par les Oums sont-ils d'origine sismique?
Oui, ben c'est ça, ça, ça. Moi, c'est mon premier réflexe, là, c'est de dire qu'il y a une vibration quelconque qui fait en sorte que les gens sentent cette vibration-là puis l'entendent.
Eh bien, il y a justement comment cette vibration pourrait s'expliquer par quelque chose de sismique. Eh bien, l'explication scientifique, là, il y a eu des études qui ont été faites, notamment par le chercheur français de l'IFREMER, qui a publié une grosse étude dans la revue Geophysical Research Letters. Son nom, c'est Fabrice Hardouin.
OK.
Et lui, il dit, ça pourrait être une activité microsismique déclenchée par l'impact des vagues sur les fonds océaniques.
Oh, OK.
Alors, la pression des vagues sur le plancher océanique génère des ondes sismiques qui font osciller la Terre. Et cette activité microsismique, qui est enregistrée un peu partout sur Terre, est assez grande, en partie due aux vagues, pour peut-être créer une vibration, un son, des ondes sismiques qui pourraient produire là, des sons d'une durée de 13 à 300 secondes. Et il pourrait être entendu par une proportion relativement faible de personnes qui sont sensibles justement aux basses fréquences.
OK.
Alors, selon lui, c'est un pas important vers une possible explication. Mais le problème de ça, c'est qu'il y a bien des oums qui ont été entendus dans des endroits très loin de la mer, très loin
ouais.
de l'océan.
Puis écoute, y a un dauphin fait un pet au milieu de l'océan Atlantique, puis les sismographes l'enregistrent. Là. je veux dire, on a des avertissements de tsunamis parce que des tremblements de terre qui se situent en plein milieu de l'océan sont enregistrés. Et dans la minute qui suit, il y a déjà des avertissements qui sont lancés avec une possibilité de tsunami ou de raz-de-marée. On enregistre chaque petit mouvement de la croûte terrestre ou de... est enregistré. Donc, si les vagues cognaient si fort que ça dans le fond marin pour être capable d'amener une vibration jusque dans les terres, j'imagine que ça serait enregistré quelque part.
Ben oui, exact. Puis tu sais, cette théorie-là, c'est intéressant, mais je dirais que c'est parmi les trois scientifiques, c'est la moins, je dirais, crédible, la moins intéressante, justement pour la grosse logique qu'on l'entend souvent dans les villes, dans
ben
les
oui.
villages qui ne sont pas collés sur la côte, qui ne sont pas nécessairement près de la côte. Donc, tu sais, ces phénomènes-là pourraient peut-être survenir, oui, près des côtes, près de l'océan, mais c'est tout. T'sais. Fait que c'est intéressant, on la garde, on la prend.
Oui, mais tu sais, je veux dire, si je regarde là, quelqu'un qui vit en plein milieu du Montana, il est comme à peu près le plus éloigné possible là, des deux océans de chaque côté. Nebraska, la même chose. Il y en a beaucoup, beaucoup. Colorado, d'ailleurs, je regarde là, la carte là, que tu nous as proposée tout à l'heure. Saskatoon, en Saskatchewan, on est très loin de la mer également. Il faudrait que ce soit des méchantes vibrations là, pour aller déranger jusque-là.
Absolument. Donc, on va y aller avec la deuxième théorie scientifique, Jason.
Oui.
Les oums sont-ils d'origine atmosphérique?
Ah!
Alors là, ça, je vais essayer de vulgariser ça bien simple. Là. C'est le bouclier magnétique. On en a parlé quelques fois, hein, qui nous protège des vents solaires,
ouais.
des éruptions solaires. Donc, on le sait qu'il y a un bouclier magnétique qui provient de notre noyau de fer. Et là, ce qu'on dit, c'est que quand il y a une grosse éruption solaire ou des ondes solaires qui frappe le bouclier magnétique, ça pourrait faire l'effet comme si on prend un marteau puis on frappe sur une cloche.
Ah, fait que ça fait une espèce de membrane, en fait, qui provoque une vibration de l'air au moment où elle est frappée.
Exactement. Donc, ça créerait une sorte de résonance qu'on appelle les résonances de Schumann, des ondes électromagnétiques d'extrême basse fréquence qui pourraient devenir des oums. Mais le lien scientifique n'est pas clair. On dit que en janvier 2012, lorsque de nombreux oums ont été entendus en Amérique du Nord, ben, l'activité solaire était très faible et il n'y avait même pas d'éjection de masse coronale. Il y en avait, mais pratiquement pas. Donc, s'il y en avait eu, on aurait pu dire « Ah ben voilà! »
Oui, ça n'aurait peut-être pas confirmé, mais ça serait venu appuyer cette théorie-là. Là, c'est l'inverse. C'est qu'en fait, dans une période où on en a eu beaucoup, le phénomène décrit n'est pas arrivé.
Exactement, exactement. Donc, c'est une théorie quand même. Là. Il y a encore des études en cours, mais on sait que quand il y a des fortes éjections de masse coronale ou des ions du soleil qui frappent le bouclier magnétique, ça crée des résonances de basse fréquence. Donc, ça, c'est prouvé. Mais est-ce que c'est les oum dans les villes et villages qu'on entend? Ça, c'est très, vraiment moins clair. Là. On a comme... Ça serait vraiment très difficile à prouver. Puis on se dit, ouais, tu sais, c'est... On pense pas que ça soit ça.
Non, ben c'est sûr, c'est... On n'a pas les données pour venir appuyer la théorie, mettons.
Exact. La troisième, Jason, moi, je l'aime bien. Troisième, bien honnêtement, c'est ma préf dans les études scientifiques et tout. On dit que, de plus en plus, il y a eu des études qui ont été faites qui prouvent que le manteau supérieur de la Terre émet des vibrations.
OK.
On le sait, hein, notre couche terrestre, la couche terrestre est mince. Hein, c'est comme une coquille d'œuf. C'est très mince. Et à l'intérieur, c'est de la lave. Ça bouillonne. Il y a des activités incroyables. Et il y a eu des études scientifiques où on a descendu des micros, Jason, dans le fond des trous les plus profonds sur Terre.
OK.
Parfois même jusqu'à 9 km.
Oh!
Et on s'est rendu compte, là, on a enregistré le son et on l'entend très bien. Jason, ça ressemble énormément.
Il y a un oum.
Oui, il y a un oum. Oh. Et c'est puissant, c'est fort. On dit que c'est la vibration de la terre, de la lave, hein, toute la...
C'est ça. Si vous prenez un ballon, par exemple, vous le remplissez d'eau puis vous le brassez, ça va provoquer un son parce qu'il y a du mouvement à l'intérieur de la membrane. Fait que si la coquille de la terre, en fait, sert un peu comme le ballon, ben à l'intérieur, la lave, c'est l'eau avec les roches qui fondent et tout ce qui se passe là-dedans, ça ferait du sens que ça doit générer un bruit quelconque, ça, là, toute cette activité-là.
Oui, exactement. Puis on n'est pas... On ignore quand même, on n'est pas là à scruter l'intérieur de la Terre constamment. En dessous de la couche terrestre, on n'est pas là pour dire « Oh, là, il y a une grosse vague de lave qui est en train de passer sous la couche terrestre. » On ne le sait pas, ça.
Ouais.
Fait qu'ils disent que si ça arrive, si, mettons, une activité interne dans la Terre qui serait comme plus active, ça pourrait créer des vibrations de basse fréquence qui pourraient voyager à travers la couche terrestre et se ramasser à créer des basses fréquences, un son de basse fréquence qui pourrait être amplifié par les murs ou par les structures des édifices.
Qui devient la caisse de résonance, comme on disait au début de l'épisode.
Exactement.
Ça, écoute, vois-tu, ça, en y pensant bien, je me dis, oui, il y a tellement d'activités en dessous là, de la couche terrestre, ça ferait du sens. Mais encore là, je me dis, est-ce que les appareils de sismologie devraient être assez sensibles pour les capter, justement, ou bien le son est simplement un son qui, une fois rendu à la surface, dans les maisons, tout ça, devient un son en plus d'une espèce de vibration qu'on sent, parce qu'il est tellement bas, le son, que ça ne donne l'impression qu'une vibration?
Oui, c'est ça qui est achalant. Tu sais, on se dit, on pourrait capter des vibrations sismiques. Alors, si on n'en capte pas, ça veut dire que ça, c'est vraiment uniquement une résonance sonore.
Oui, c'est ça. C'est spécial parce que le son, c'est une vibration. Là. Je veux dire, quand vous nous écoutez actuellement, vous entendez le son de ma voix. C'est parce que ma voix fait vibrer le solénoïde du micro qui va s'enregistrer. Puis après ça, ça va faire vibrer votre haut-parleur, votre écouteur qui va faire vibrer dans votre oreille. Puis vous allez entendre ce que je dis. Fait que c'est des vibrations. C'est que des vibrations, le son. C'est la raison pour laquelle dans l'espace, il n'y a pas de son. C'est qu'il n'y a pas d'air, l'air ne peut pas vibrer, elle n'est pas là, alors il n'y a pas de son, c'est silencieux dans l'espace. Automatiquement, un son, c'est une vibration.
Oui, puis c'est ça qui est paradoxal en ce moment, c'est ça qui est achalant dans des vibrations assez puissantes qui percent la couche terrestre et qui se ramassent à la surface, on sentirait des vibrations sismiques.
En principe, on aurait une mesure quelconque. Là.
Exact, c'est ça, mais là, on n'en a pas.
c'est spécial, c'est vraiment spécial de ne pas être capable d'enregistrer à l'aide d'appareils de mesure, mais on est capable de les enregistrer avec un micro.
Oui.
C'est comme un son sans vibration, ce qui est totalement impossible.
Alors, c'est très achalant, ça.
Oui.
Vous allez voir, là, pour vrai, ça, au bout du compte, ça m'énerve, cette histoire. Parce que je me dis, c'est tellement curieux. Puis...
Ça défie un peu nos croyances scientifiques, hein. On est très, très rapide à se tourner vers la science et à mesurer les choses. Ce qui ne peut pas être quantifié, souvent, va sortir un peu de la science. Alors là, ça, c'est quelque chose qui semble très scientifique parce que, c'est enregistré, mais en même temps, ça ne peut pas être quantifié. Fait que c'est difficile de pouvoir combiner les deux, là, dire oui, OK, c'est observé, c'est même enregistré, il y a des gens qui l'entendent. C'est le même 10 minutes. Là, fait que c'est pas une fabulation d'une ou deux personnes dans la même maison. C'est plein de gens à travers la ville qui, dans le même 10 minutes, ont été réveillés par ça. c'est que c'est arrivé. Je veux dire, on peut pas oui. commencer à mettre en doute la parole de dizaines de personnes, de centaines de personnes, mais il n'y a personne qui l'a enregistré de manière scientifique avec un appareil de mesure. C'est là que c'est comme, ben non, mais là, pourquoi? Je veux pas!
Non, c'est ça, non, c'est vraiment achalant. Puis c'est pour ça que les théories, il y en a des. Ça, c'était les trois plus, disons, scientifiques
ouais,
sérieuses.
On essaie d'expliquer par le principe scientifique ce qui pourrait se passer avec ces trois théories-là. J'imagine qu'on en a des assez savoureuses aussi qui décident de ne pas se fier nécessairement à la science.
Ah, tout à fait, ça je les garde pour la fin. Là, on va y aller dans l'entre-deux, je dirais, Jason.
Okay.
Donc,
okay.
J'ai trois théories qui sont en entre-deux, donc on parle d'une crédibilité, pas nécessairement toujours scientifique, mais qui sont très intéressantes quand même. Alors, on parle premièrement d'une météore dans la haute atmosphère qui rentre dans l'atmosphère. Ça dégage une puissance de plusieurs mégawatts dans les fréquences audio. Donc, ça pourrait là, créer, ça pourrait perturber le champ magnétique de la Terre, ce qui créerait une vibration de basse fréquence quand okay. il y a une météore qui serait comme qui pénètre là, dans l'atmosphère.
Donc, elle créerait une vibration en entrant dans notre atmosphère, ce qui revient un peu au même là, que les fameux rayons solaires qui frapperaient le bouclier magnétique.
C'est ça. Donc, un peu que l'image que quand on tient une cloche et on a un marteau, tu sais, poum! Là, on frappe dessus, ça crée vraiment une. On voit, là, on l'image bien, là,
ouais.
des vibrations sonores. Mais ça sera un peu ça. La météore, qui, pouf, elle perce le bouclier magnétique, elle entre dans l'atmosphère et ça crée des vibrations de basse fréquence.
Excellent. Fait que bon, ça, c'est une théorie qui est semi-scientifique, mettons.
Oui, c'est ça. J'aime bien celle des les systèmes de radiotransmission de basse fréquence utilisés par les sous-marins.
Ah!
Ça, on n'est pas toujours au courant de s'il y a des sous-marins près de chez vous. Hein. L'armée ne va pas nous dire « Hey, un sous-marin qui va passer tel jour, telle date à côté de chez vous. » Puis, il y en a des sous-marins. Il y en a plusieurs. Plusieurs pays utilisent des sous-marins.
Oui, absolument.
Donc, on dit que les systèmes de radiotransmission de très basse fréquence seraient peut-être assez puissants pour créer des vibrations qui pourraient créer le « oum ». Mais encore là, pas de test, pas d'études, c'est une hypothèse.
Non, c'est... Puis encore là, on a la problématique de quelqu'un qui habite à Saskatoon. Je pense pas qu'il y ait de plan d'eau assez profond pour dire qu'on s'en va se promener en sous-marin dans ce coin-là.
Exact. Non, c'est ça. Les gens en Arctique non plus, ou les gens près des grands centres au Maroc, c'est difficile d'expliquer ça.
Oui, ben c'est ça. Donc, ça pourrait expliquer en partie, mais c'est pas une théorie qui s'applique à absolument tous les témoignages. Là.
Exact, exact. Et le troisième, bien, c'est le projet HARP.
Le fameux projet HARP.
Tu en as entendu parler?
Ah, on va l'aborder un jour. Je pense que je vais faire un épisode dessus à un moment donné parce que ça fait partie de tellement, mais tellement de théories de complot. Ces fameuses antennes du projet HARP qui, on leur attribue toutes sortes de propriétés. Je ne suis pas vraiment surpris de le voir sortir aujourd'hui.
Ah, ben tu vois, c'est ça. Hein? Tu vois, j'ai pas eu le temps. J'ai vu vite, là, mais c'est ça. C'est un système, en fait, c'est un site d'observatoire de recherche américain voué à l'étude de l'ionosphère et on a des centaines d'antennes qui envoient des signaux radio dans l'atmosphère et c'est assez mystérieux ça, Jason.
Oui, ben, ça reste que c'est un projet qui à la base, là, avait une vocation qui était plus ou moins connue du public et ça devient tout le temps un terreau fertile, ça, justement, pour toutes sortes de théories. Certaines sérieuses, d'autres très, très, très farfelues. Bon, on a même là, plusieurs personnes qui croient que le système HARP contrôle la météo.
OK.
Il peut contrôler la météo n'importe où dans le monde. Décider de provoquer une sécheresse en Afrique pour appauvrir les pays d'Afrique, par exemple. Puis en Europe, ben là, c'est de la pluie qui va provoquer des crues des eaux, des inondations. Puis les Américains auraient en fait là, une espèce de jeu vidéo là, qui déciderait bon, ben il va mouiller aujourd'hui à Berlin. « Hey, les gens de Berlin, ils vont mouiller! » Puis là, il pèse sur le piton, puis il se met à mouiller. Il y a des gens qui croient ça, mais il y a aussi, bon, toutes sortes de bon, communications avec les extraterrestres. Il y en a plein. Et le OUM, ben, je ne suis pas surpris de voir qu'on l'associe aussi là, à ce fameux site un peu mystérieux là, d'études de la ionosphère.
Mm-hmm. Ah, ben, peut-être qu'on y reviendra dans un podcast complet sur... le projet HARP, moi, je serais bien partant que tu
oui, ça parles. Pourrait être intéressant là, d'en parler. On l'avait déjà eu quelques fois là, en proposition. Fait que ça serait, c'est dans les cartons d'en parler un jour.
Ben, tu vois, c'est une théorie, mais encore là, c'est ciblé à un endroit. Hein. Il n'y a pas des projets HARP partout sur le globe. Puis on voit que le HOOM, ben, il y en a partout sur le globe. Fait que ça serait difficile. Peut-être, mais c'est une théorie. Si on dit le projet HARP, peut-être.
Écoute, le projet Harp a le dos très large pour bien des choses. On n'est pas surpris de voir qu'on y rajoute le fameux phénomène du OUM.
Alors, ben Jason, on arrive dans les théories loufoques.
Ah, écoute, je vais être le premier à le dire, les extraterrestres.
Ben oui, exact, au top de la liste, les signaux extraterrestres, les soucoupes volantes, un vaisseau, on peut penser à notre premier épisode, l'OVNI de la station Bonaventure. On disait quand même que, selon les études de la NASA, si tout ça c'est vrai, l'engin était quand même gros, tu sais, de ce que
oui, ben c'est ça, puis c'était géostationnaire, donc peut-être que ça émettait des vibrations que c'est pas tout le monde qui est capable d'entendre ou de ressentir. Je suis capable de faire le lien, là, ben, sans nécessairement accepter la théorie, mais je suis capable de faire le lien, oui, pourquoi on associerait aux extraterrestres ce fameux phénomène du OUM.
Ben oui, soit des ondes radio, hein, des signaux envoyés par des extraterrestres ou un vaisseau qui serait dans la haute atmosphère, donc pas détectable par les aéroports. Parce qu'il est trop haut, tu sais, mais assez gros puis imposant pour faire une vibration. Qui sait, sommes-nous, est-ce qu'on s'est fait observer à cette île le 17 mars par une soucoupe volante gigantesque dans la haute atmosphère? Je pense pas, mais je trouve ça quand même cool. Moi, les fans de films d'extraterrestres, c'est toujours le fun de le dire et de s'amuser à dire cette théorie-là.
Ben voilà, c'est. Puis je veux dire, la théorie des extraterrestres se marie tellement bien avec tellement de phénomènes que c'était obligatoire de faire un petit détour par là.
Exactement. Celle-là, je l'ai trouvé drôle en tabarouette, la théorie de l'accouplement de créatures sous-marines gigantesques.
Oh, le kraken qui fait des bébés!
Exactement, ou même peut-être des baleines.
Ben oui. Hey, pourquoi pas? Peut-être que c'est une journée dans l'année, puis tout le monde en même temps. Fait que ça pendant l'année, ça fait des vibrations.
Exactement. J'ai bien aimé aussi des trompettes divines.
Oh!
Alors, peut-être des dieux, peut-être Dieu qui joue de la trompette ou qui envoie un signal.
Oui.
Ou des dieux, de la trompette divine.
Ben oui, pourquoi pas? C'est ça. Il joue du jazz avec ses anges. Là. Hey, c'est bon ça. J'aime ça.
Et la dernière, Jason, j'ai gardé cette dernière théorie parce que je la trouvais. Je la trouvais jolie.
Ah, OK.
On parle du gémissement de notre planète à l'agonie.
Ah!
Parce que de plus en plus, il y a des études qui expliquent. Il y en a une, d'ailleurs, une étude qui a parlé dans Science et Vie, là, qui parle de la possibilité que notre planète soit vivante, hein, que ça soit une sorte d'organisme où tous les êtres vivants seraient connectés, un peu comme Pandora dans Avatar.
Oui.
Et là, le fait qu'on détruit la planète, qu'on y fait du mal avec le pétrole, les mines, tout ça, on connaît l'histoire, ça serait comme une sorte de gémissement de notre planète qui crie au secours, qui crie à l'aide. Une sorte de vibration, une sorte de cri là, de l'agonie de notre planète qui dit « Arrêtez de me faire mal! »
Ah, ben oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est poétique.
Mm-hmm.
Ben oui, c'est bien ça, j'aime ça. Ça ne veut pas dire que c'est nécessairement ça, mais je peux peut-être une belle manière d'imager, par contre, là, justement, là, qu'on se rapproche tranquillement, pas vite, là, d'un point de non-retour avec l'environnement qui est décimé comme ça d'année en année. Ben, pourquoi pas?
Exact, elle crie « Ouch! »
Oui, c'est ça. Aïe!
Exact. Donc, c'est ça l'histoire du OUM. Jason, on n'a pas d'autres preuves, on n'a pas de théorie prouvée, mais c'est mystérieux.
Mais même les théories scientifiques, ils ont l'air faciles à contredire. On dirait que c'est facile de trouver des failles dans les théories les plus scientifiques que tu as présentées. On dirait que c'est, OK, c'est bien beau, mais comment ça qu'on ne l'enregistre pas? Moi, écoute, on écoute la Terre, on surveille la Terre. C'est sûr qu'il y a des endroits où on va surveiller plus. L'affaire de San Andreas, c'est pas mal plus de sismographes qu'il peut en avoir en plein milieu de la Saskatchewan. On le sait, là, c'est des endroits qui sont propices aux tremblements de terre, qui sont propices à des dommages graves s'il y a tremblement de terre. Fait que c'est sûr qu'on mesure certains endroits de la Terre plus que d'autres. Mais si on est capable d'enregistrer un éclair sur un sismographe, on doit être capable d'enregistrer un phénomène de 10 minutes de... Me semble, en tout cas, qu'on devrait avoir une trace quelque part. Donc, si vraiment on ressent une vibration, on entend un son et qu'il n'y a rien d'autre que les gens qui l'ont enregistré avec leur téléphone ou avec leur caméra, c'est un un mystère anodin qui est quand même un mystère dans le top du mystère.
Oui, oui. Puis, ben, peut-être en terminant, c'est une théorie qui est plate, mais qui, tant qu'à moi, fait bien du sens. Là. On parlait aussi de la possibilité que, là, on va se dire, ah, ben oui, c'est ça. Puis bon, c'est un peu plate, mais ça, dans le fond, ça peut être des basses fréquences qui sont générées par des activités humaines. La nuit, on dit que c'est la nuit, bon, ça crée des résonances. Fait que ça pourrait être des activités humaines différentes selon chaque home. Donc, processus industriel, prospection pétrolière, forage, fuite de tuyaux, sirène, antenne de téléphonie, éolienne, chantier, remise en état de ballast des voies ferrées.
Oui, c'est ça. Ça peut être ça aussi. Hein. Si on est proche d'un parc éolien, ça se peut que le soir, quand tout est absolument silencieux, qu'on ressente justement la vibration qui est provoquée par ces énormes hélices, là, ces énormes pales qui tournent. Il y a peut-être de quoi très terre à terre comme ça qui est le parc industriel. Souvent, c'est des industries cordées une à côté de l'autre qui fonctionnent 24 heures sur 24 ou qui ont de la machinerie qui fonctionne, système de ventilation qui fonctionne en permanence. C'est peut-être juste ça.
Oui, c'est ça. Moi, pour vrai, je trouve que ça ferait du sens parce qu'on dit souvent que c'est la nuit et tout. Donc, comme tu l'as dit, même les systèmes de ventilation, des grosses usines, la nuit, peut-être que là, c'est des basses fréquences qui prennent, qui ont plus de terrain, ils ont plus de facilité à se promener parce qu'il y a moins d'ondes, tout le monde dort, il n'y a plus d'activité.
Il y a moins de bruit, c'est ça. Il y a moins de pollution sonore là, au moment où la ville est endormie. Et puis, à un moment donné, je ne sais pas si tu as déjà fait de la musique, tu en fais de la musique d'ailleurs, avec une guitare ou avec un instrument à cordes comme ça qui crée de la vibration. C'est comme ça qu'on entend le son, par exemple, de la note de guitare. Nous autres, on appelait ça des notes calorifères. Pourquoi? Parce que certaines notes étaient sur une fréquence très précise qui faisait vibrer le calorifère dans la salle de pratique où on était.
Ah ouais!
Et donc, on arrivait sur cette note-là et le calorifère nous accompagnait. Ça faisait brrr, mais le calorifère se mettait à vibrer, mais juste sur cette note-là. Alors, peut-être qu'à un moment donné, il arrive un moment où, justement, le système de ventilation, par exemple, se met à tourner à une vitesse extrêmement précise pendant quelques minutes où il génère, justement, ce genre de vibration-là pendant un temps très court. Et que là, ça fait comme, ben voyons donc, qu'est-ce que c'est ça, ce son-là? J'ai l'impression que la maison va tomber et oups, ça s'arrête. Parce que là, bon, le système de ventilation a changé de température ou a changé de vitesse là, à peine, mais juste assez pour que ce ne soit plus cette note-là qui soit générée. Et on appelle ça le tomber en résonance, je pense, là, quelque chose comme ça. Et ça, moi, c'est à ça que ça me fait penser. C'est vraiment à ça que ça me fait penser.
C'est tellement bon comme explication, j'aime ça. Puis tu vois, en terminant, Jason, ça me fait penser un peu dans le même genre. Tu vois, je suis en train de boire de l'eau dans une coupe de vin. Et tu sais, le phénomène, là, gars, je vais essayer de le faire. Quand tu mets de l'eau sur ton doigt et tu tournes autour de la coupe, ça crée une vibration à un moment donné qui crée un son.
C'est une micro-vibration parce que c'est à peine. Le verre ne vibre pas. Là, visiblement, on ne le voit pas vibrer. Mais il y a quand même une vibration suffisante pour générer. Voilà.
Exactement.
Pour générer le son qu'on vient d'entendre. Fait qu'il faut que ça vibre, mais à peine, là, c'est à peine, parce que c'est du verre, c'est dur, c'est raide, mais ça vibre assez pour provoquer un son. Fait que je pense qu'on devrait peut-être explorer là, les environs des endroits où il y a des signalements, puis dire, prenons des mesures des différentes sources de bruit la nuit pour voir est-ce qu'il y en a une là-dedans qui pourrait peut-être être la cause, justement, du fameux « qu'on entend.
Oui. Non, tout à fait. Il y a des usines chez IOC que on s'est dit, ah, ben, il n'y avait pas d'activité, mais dans le fond, près de l'usine, on entend comme d'habitude les sons des machines.
Ben oui.
Mais que dans le village, dans la ville, avec des études approfondies, tu sais, de sonore, avec des micros d'experts, des micros ultra sensibles, on se rendrait compte effectivement que, ah, tu sais, dans le fond, l'usine, le jour, on ne l'entend pas tant parce que les bruits se dissipent dans les autres bruits de.
Ouais, voilà, il y a beaucoup de pollution sonore.
C'est ça, mais la nuit, on préfère, ah, ben, tabarouette, c'était ça, dans le fond.
Hey, peut-être que dans 10 ans, Tristan, il y a des scientifiques qui vont ressortir cet épisode-là et qui vont dire « Il l'avait dit. C'était ça.
Exactement. Ou que dans 10 ans, il y a des soucoupes qui vont atterrir sur Terre et vont dire « Ben non, c'était nous! »
Ouais, c'est ça. Vous vous êtes trompés. C'est nous autres qui fait ça. C'est pour
ça
vous
reste, un des dossiers, je vais être honnête, qui m'a le plus captivé depuis le 88 épisodes.
C'est le fun. C'est vraiment le fun comme sujet. C'est très léger en même temps. C'est extrêmement mystérieux parce que la science a de la misère. Quand on trouve un sujet que la science a de la misère à expliquer comme ça, c'est toujours un peu mystérieux parce qu'on pense que la science est rendue là, à un niveau où il n'y en a plus de mystère. Mais non, il y en a encore. Puis c'est pas le mystère de la vie, là. C'est tout simplement le mystère d'un son qui est entendu comme ça.
Tout à fait, tout à fait. Puis c'est drôle parce qu'à cette île, l'autre fois, je travaillais, puis là, j'entendais une vibration, un grondement à la station de radio, puis j'étais genre « Oh, oh, c'est-tu un... Oh, oh. » Puis j'étais allé voir, je me promenais dans l'édifice, j'étais comme « C'est-tu l'usine? C'est quoi? » Puis j'étais vraiment perturbé, puis on dirait que je vais être plus à l'affût maintenant quand j'entends des vibrations.
Ben oui, ben, je vais porter plus attention aussi, puis je vais aller en jaser avec mon voisin là, la prochaine fois que je le vois à l'extérieur. Je vais aller lui poser quelques questions.
Excellent, tu pourrais lui envoyer notre podcast.
Ben oui, peut-être qu'il l'écoute. Je vais lui poser la question, sinon je vais lui proposer d'aller écouter cet épisode-là. Ça va peut-être le rassurer de voir qu'il n'est pas seul là, à vivre ce phénomène.
Eh bien voilà, c'est ce qui complète mon sujet.
Un gros merci Tristan, c'était vraiment intéressant. C'est j'aime ça des petits mystères comme ça, une fois de temps en temps, ça fait du bien.
Ah ben ça fait plaisir. Puis si jamais vous avez vécu, n'hésitez pas à nous écrire un petit commentaire.
Ah, oui, vécu. Ça, c'est le genre d'épisode, Tristan, qu'on va avoir 200 messages cette semaine. J'en suis convaincu.
Exactement. Puis on va vous lire. Puis des fois, on est lent à répondre. Puis moi, je vois que tu réponds. Puis moi, j'arrive un mois plus tard. Puis là, je réponds aussi un mois plus tard. Donc, je vous lis. On vous lit avec attention.
Ben absolument. On va prendre 30 secondes, Tristan, pour remercier les gens qui ont déjà commencé à acheter des items promotionnels. On a vendu des chandails à capuche, des t-shirts, des bouteilles d'eau, des casquettes, des posters. On en a vendu plein. Alors, on a une boutique qui a présentement deux modèles différents parce qu'il y en a deux qui ont été retirés. On est en train de regarder pourquoi ils les ont retirés. Mais il reste deux modèles disponibles d'items, là, des superbes items de dossiers bizarres. Vous avez tellement demandé ça dans les trois dernières années. On a décidé de se lancer. Donc, vous pouvez les commander. On va mettre l'adresse, on met l'adresse là, régulièrement sur la page Facebook. Et si vous écoutez cet épisode-là, la semaine de sa production, c'est-à-dire aujourd'hui, on est le 10 avril 2022, il vous reste à peu près 7-8 jours là, pour aller profiter du rabais de 15% sur l'achat des items promotionnels. Alors, allez sur notre page Facebook, le lien y est, et puis vous allez pouvoir aller acheter là, de superbes chandails.
Ben oui, c'est le fun. C'est le fun, c'est vraiment agréable. Moi, c'est le coton à thé rouge avec le dossier bizarre.
Ah, écoute, puis la couleur est parfaite en plus.
Oui, c'est très, très le fun. Ben, c'est le fun, c'est que du positif, tout ça. Puis écoute, veux pas, on s'approche du 100e.
Eh oui, absolument, on approche du 100e épisode. Alors, tranquillement, pas vite, on va s'y rendre. On rappelle également qu'il y a un Patreon à 5$ pour ceux qui veulent contribuer là, pour qu'on puisse couvrir un petit peu nos frais. Et il y a un Patreon à 25$ par mois aussi qui, lui, va donner des items vraiment exclusifs qui sont uniques au Patreon, qui ne peuvent pas être pris ailleurs. Alors ça aussi, si ça vous tente, là, vous pouvez aller contribuer sur le Patreon de Dossiers Bizarres et on remercie ceux qui le font déjà. C'est très, 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 très apprécié.
Mais hein, trop cool, puis va toujours rester gratuit, hein. Ne vous inquiétez pas pour ça, le podcast, là, des gens qui nous ont écrit, ah, va-t-il devenir, non, jamais, on va toujours l'offrir gratuitement, là, ça c'est clair.
Ben oui, absolument, l'objectif c'est pas de le rendre payant, mais bien de tenter de le rentabiliser en continuant à l'offrir à tout le monde.
Exact.
Hey, un gros merci M. Tristan, c'était passionnant.
Ah ben, ça fait plaisir, puis j'ai bien hâte d'entendre ton sujet la semaine prochaine.
Et voilà, ben oui, on va trouver un sujet encore à vous présenter là, pour le prochain épisode. Merci à tout le monde d'avoir été là, et on vous souhaite une excellente semaine.
Mais hein?
L'émission Dossier Bizarre était une présentation de... Pour l'animation de votre prochaine fête d'enfants, pensez à engager Monsieur Banane.
Hey, hey, c'est moi, Monsieur Banane.
Monsieur Banane peut faire des animaux en ballon.
Quoi, ça?
C'est une marmotte qui n'a pas été assez vite pour traverser l'autoroute avec un camion qui l'a écrasé.
Maman, la grosse banane me fait peur!
Monsieur Banane peut danser à claquettes.
Et hop, et hop, et hop, et hop, et hop.
Et il peut même raconter des blagues.
C'est une fois, un gars, il rentre dans un bar, puis il met sur la table un tout petit piano, un pianiste de 12 pouces.
Avec l'animation de Monsieur Banane, plus jamais une fête d'enfant sera la même.
Je veux plus jamais avoir de fête!
Peux-tu emprunter le téléphone? Faudrait que j'appelle mon agent de probation.